Bienvenue dans le débat. Imaginez un peu la scène. Perdre une guerre sanglante, céder des territoires historiques vitaux et avoir une foule furieuse qui envahit votre propre parlement en pleine nuit.
Ouais, le chaos absolu.
Exactement. Et puis, eh bien, 8 mois plus tard, vous organisez une élection législative anticipée et vous raflez la mise avec 54% des voix.
N'importe où ailleurs, ce serait politiquement impossible. Mais là, on parle de l'Arménie de juin 2021.
C'est ça. Et c'est un paradoxe absolu. Comment Nikol Pachinian a-t-il pu survivre dans les urnes après ce traumatisme militaire total face à l'Azerbaïdjan? Moi, quand je regarde les faits, avec ses 71 sièges obtenus sur 107, j'y vois vraiment l'action d'un électorat très lucide. Une société qui, malgré le choc, a fait un choix démocratique assumé pour consolider ses institutions. Je défends l'idée que c'est une vraie rupture démocratique.
Sauf que ces chiffres officiels masquent une réalité sociologique beaucoup plus glaçante. Moi, je soutiens qu'on n'est absolument pas face à une adhésion populaire. C'est le vote d'un électorat épuisé, tu vois, piégé par la peur d'une guerre civile.
Tu penses que c'est juste par défaut ?
Totalement par défaut, face à un manque terrifiant d'alternatives crédibles.
Alors, parlons de ce qui s'est passé dans la tête des électeurs. Le traumatisme de l'automne 2020 est immense, bien sûr, mais le souvenir de 2018 l'est tout autant. Il faut se rappeler ce qu'était la révolution de velours.
Un soulèvement pacifique ?
Voilà, un soulèvement qui a chassé des décennies de corruption systémique. Donc ce vote de 2021, il fonctionne comme un pare-feu. Les Arméniens ont vu le risque que l'ancien système autoritaire profite du chaos militaire pour reprendre le pouvoir. Et eh bien, ils ont rationnellement bloqué cette option.
Non mais la moitié du pays n'a même pas fait l'effort d'aller bloquer quoi que ce soit. La participation plafonne à 49,4%. C'est pas un sursaut démocratique, c'est de la paralysie.
Je dirais plutôt de la prudence.
Et regarde comment la campagne a été menée. Pachinian avait promis une transition douce, son fameux velours de 2018. En 2021, il arpente les marchés en brandissant littéralement un marteau. C'est ce qu'il appelle la révolution d'acier, quoi. Il ne rassemble plus, il menace d'écraser. Ce discours a fonctionné uniquement parce que l'opposition en face était inaudible.
Justement, attends un mot sur cette opposition. L'alliance de Robert Kocharian, qui incarnait cet ancien régime, fait à peine 21%. Et le bloc de l'autre ancien président, Serge Sarkisian, s'effondre sous le seuil de représentation.
Complètement, ouais.
Donc c'est pas qu'ils étaient inaudibles, c'est qu'ils ont été rejetés idéologiquement. C'est une décision vraiment chirurgicale de l'électorat pour couper définitivement les ponts avec le modèle pro-russe du passé.
Bah pour moi, le naufrage de ces anciens dirigeants prouve la mécanique inverse. Les Arméniens ont voté contre des fantômes, pas pour le bilan de Pachinian. Pourquoi l'ancien régime terrifiait plus que la perte de territoire ?
Parce que la corruption était partout.
Exactement. Ces oligarques contrôlaient le moindre rouage de l'économie. Leur retour, c'était pas juste un alignement sur Moscou. C'était le retour du racket institutionnalisé au quotidien. Dans le secret de l'isoloir, le dégoût évident pour le Premier ministre s'est juste fracassé contre la terreur de voir revenir ses prédécesseurs.
D'accord. Mais si je me mets à la place de l'auditeur, je me dis comment peut-on revoter pour le dirigeant sous lequel 4000 soldats viennent de mourir ? Ça semble insensé, sauf si on réalise que l'appareil d'État a tenu le choc. L'analogie qui me vient, c'est pas celle d'un vote d'adhésion classique, c'est celle d'un équipage en pleine tempête. Le capitaine a mené le bateau au désastre, la coque est percée, mais l'équipage refuse catégoriquement de confier la barre aux anciens pirates qu'ils viennent tout juste de jeter par-dessus bord. D'autant plus que la vigie fonctionne, la Cour constitutionnelle a validé ce vote.
Oui, personne ne conteste la légalité des bulletins dans les urnes.
Et les observateurs de l'OSCE l'ont jugé libre. L'état de droit a très bien fonctionné face à la crise.
D'accord, mais l'OSCE évalue une procédure juridique, pas l'état psychologique d'un peuple en deuil. Le marteau de Pachinian, c'était pas de la rhétorique en l'air, c'était la promesse de purge violente contre les maires frondeurs et les élites locales. Il a instrumentalisé l'angoisse palpable d'un putsch militaire.
C'est vrai que la tension dans les rues était extrême.
Voilà, les gens n'ont qu'à voter pour valider un cap institutionnel. Ils ont voté la peur au ventre pour que la violence cesse de déborder dans les rues d'Erevan.
L'atmosphère était brutale, ça je te l'accorde sans problème. Mais l'histoire retiendra que ce scrutin a évité l'effondrement total de l'État. En maintenant cette administration, l'Arménie a d'ailleurs pu entamer par la suite une réorientation stratégique fondamentale.
En s'éloignant de Moscou.
Oui, en prenant ses distances avec l'orbite russe. Et sans cette stabilité au forceps de 2021, ce pivot aurait été impossible.
Le pivot géopolitique est un fait, on est d'accord là-dessus. Mais la cicatrice morale de cette victoire est indélébile. La révolution d'acier n'a ni vengé les morts, ni réglé l'équation existentielle face à Bakou. Elle a simplement déterminé, dans la douleur, qui allait devoir porter le fardeau de la défaite.
C'est vrai. La survie de l'État, finalement, a primé sur la guérison de la société, ce qui nous amène à une réalité assez complexe sur le pouvoir du vote. Les urnes peuvent empêcher un pays de sombrer dans la guerre civile, elles peuvent sauver les institutions.
Mais elles ne suffisent pas à elles seules à réparer le deuil d'une nation blessée.
Exactement. Et c'est sur cette méditation qu'on laisse chacun tirer ses propres conclusions.